associé reprend pour exemple l'arbre en plaçant au-dessus de la barre le dessin de l'arbre en tant que concept et au-dessus de la barre le mot arbre en tant qu'image. Lacan reprend ce schéma mais inverse les classes. Le signifiant grand S est au-dessus de la barre et le signifié petit S est au-dessus. Et pour me faire comprendre ce rapport du signifiant au signifié, il préfère proposer un autre dessin, celui des toilettes publiques. Au-dessus de la barre, Lacan écrit homme, dame, et au-dessous, il dessine deux portes jumelles strictement identiques. Le signifié imagé par ces portes ne fait pas la différence des sexes. La structure signifiante institue une pure différence qui ne s'inscrit pas dans le signifié et qui produit deux places distinctes. De sorte que si les deux portes ségrègent deux lieux intimes pour faire ses besoins, la question est de savoir laquelle il convient d'emprunter, surtout si l'on ne sait pas lire le français. Pour savoir quelle porte emprunter, il faut regarder ce que Lacan appelle la double et solennelle procession de ceux qui, pressés par une envie urgente, font aux heures d'affluence la queue devant les toilettes. Heureusement qu'aujourd'hui, les deux signifiants homme-dame sont remplacés par des pictogrammes, ne laissant plus de doute sur la bonne porte à emprunter. La barre qui sépare le haut et le bas de l'algorithme sociétal, c'est le rail de l'objet là que suit le poussier engourdi, le petit garçon et la petite fille, le frère et la sœur de l'histoire que raconte Lacan, assis l'un en face de l'autre dans le compartiment d'un wagon de train qui arrive en gare et regardant par la vitre les bâtiments sur le quai le long duquel le train stoppe. Le frère dit « Tiens, on est à Dame », alors que la fille répond « Imbécile, tu ne vois pas qu'on est à Homme ». La ségrégation des sexes commence sur cette méprise. Cela a créé un débat aux États-Unis sur l'usage des toilettes publiques pour les transgenres. L'administration Obama a considéré que les transgenres utilisent les toilettes selon le sexe auquel ils s'identifient. Mais pour certains États conservateurs, comme la Caroline du Nord, ils ont voté une loi qui oblige les transgenres à les utiliser selon leur sexe de naissance. Mais la ségrégation n'est pas qu'urinaire. Elle touche à l'acte sexuel, à ce que Lacan appelle l'espace de la jouissance des corps, l'espace du s'étreindre, soit de ce qui se passe au lit de plein emploi, aussi bien qu'ailleurs. Et des toilettes au lit, la ségrégation des sexes s'aggrave, voire fait scandale, comme l'a révélé l'affaire Harvey-Weinstein. Ce scandale a réactivé la campagne MeToo, moi aussi, lancée en 2007 par Karana Burke pour dénoncer les violences sexuelles et relancée en 2017 par l'actrice Alyssa Milano sous forme de hashtag pour témoigner, pour partager les témoignages de femmes victimes de ces agressions subies, campagne reprise en France sur Twitter avec Balance ton port. On sait aussi que des femmes comme Catherine Audi et Catherine Deneuve ont réagi par une tribune parue dans Le Monde où elles défendent une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle, et protestent contre la dangerosité de cette ségrégation qui pose que toutes les femmes sont des victimes et tous les hommes seraient des agresseurs. Car telle est l'interprétation que l'on peut faire de l'événement médiatique MeToo, soutient le philosophe et linguiste de renom Jean-Claude Milner, dans l'analyse qu'il a proposée de ce symptôme le 8 août dernier au banquet du Livre de la Grâce. Le scandale Weinstein ne révèle pas un cas particulier, une exception comme ont pu l'être l'affaire Polanski ou Diolen, dit Milner, mais une règle générale qui s'étend à toutes les femmes et qui touche à ce que même le combat féministe avait laissé de côté. L'acte sexuel est le lieu ultime de l'oppression sur les femmes du discours du maître. Cette oppression que révèle à la suite du scandale Weinstein MeToo tient à ce fait du discours que toute femme est victime parce que tout homme est potentiellement agresseur du fait qu'il est structurellement fort, alors que les femmes se déclarent structurellement faibles et victimes malgré leur consentement préalable. Cette thèse que Milner déduit du discours des femmes qui disent « moi aussi » remet en effet en cause radicalement le consentement censé être celui de la femme qui accepte une relation sexuelle. Pourquoi le consentement d'une femme est-il reconnu comme illusoire? Parce qu'il a été donné à un homme qui détient la force et en a profité, comme le patron profite de l'ouvrier. Une doctrine est donc bien pour Milner sous-jacente à ce mouvement MeToo. C'est la généralisation du rapport homme fort, puissant physiquement et économiquement, comme Weinstein, et femme faible. Mais de quelle puissance s'agit-il au juste? S'agit-il de la puissance du maître? Rien n'est moins sûr, car il s'agit du pouvoir sexuel qui n'est pas à confondre avec le pouvoir du maître. Ce serait une erreur de croire que l'organe phallique marche au signifiant maître. Alors que ce que la psychanalyse nous apprend, c'est qu'il marche à la castration. Le fait que dans le mouvement MeToo, les femmes dénoncent les abus de pouvoir des hommes semble plutôt montrer qu'il y a un glissement de registre. La question du pouvoir sexuel, dans son lien à la castration, étant rabattu du côté d'une contestation du pouvoir du maître et de son discours comme incapable de régler la question du pouvoir sexuel. Dans la dénonciation du MeToo, on confond le pouvoir sexuel et le pouvoir du maître. Milner considère que cette façon de généraliser les rapports hommes-femmes selon un rapport de pouvoir homme fort et femme faible, toujours à la merci d'un abus de pouvoir sexuel, questionne notre représentation de l'acte sexuel dans le monde occidental. Jean-Claude Milner rappelle qu'on peut y retenir deux modèles. Le modèle qui nous vient de Platon et de Lucrèce et qui est le modèle de la fusion des âmes ou des corps, par laquelle deux corps ou deux âmes deviennent un. Le second modèle est celui de l'usage, où là, deux corps restent deux, chacun se servant de l'autre. Ce modèle nous vient de Kant. Deux corps peuvent s'arranger par contrat, signé de part et d'autre, avec une symétrie entre les parties qui suppose un consentement mutuel. On contractualise l'acte sexuel. Cette notion d'usage a été repensée par Marx, qui a montré l'illusoire de cette symétrie qui fait que tout usage est inégal, que l'ouvrier est spolié par le patron et que leur relation est nécessairement violente. C'est toujours le maître qui détient la force et celui ou celle qui est sous sa force ne peut que se retourner contre lui pour dénoncer son exploitation. C'est ce que l'on retrouve dans la revendication de MeToo. Chaque femme se déclare, dans un après-coup, victime, malgré son consentement préalable. Ce rapport de force, qui est un fait de structure dans l'analyse marxiste, aboutissant à la lutte des classes entre les structurellement forts et les structurellement faibles, se retrouve au niveau de MeToo, Ce qui conduit Milner à dire que, de même que le patron malhonnête est la vérité du patron, le viol est la vérité du Covid. Le problème, c'est que si Marx avait permis l'espoir qu'avec la dictature du prolétariat, ça change structurellement, avec le rapport entre hommes et femmes, ça ne peut changer structurellement, pour des raisons qui tiennent à l'inconscient. On voit bien que le présupposé du mouvement MeToo, à savoir la généralisation du rapport homme fort et femme faible, revient à proposer une nouvelle fiction du rapport sexuel construit sur le modèle du rapport au maître. Pas étonnant que l'on vienne goûter sur ce qui est alors en jeu comme l'analyse lunaire et qui est que la société actuelle a peur des corps, de leur multiplicité. Si les droits de l'homme sont des droits des corps, ils font comme si ces corps étaient semblables, égaux. Kant, dans sa métaphysique des mœurs, a prôné le contrat de mariage pour asseoir cette égalité sur un consentement mutuel. Or, il n'y a pas d'égalité de droit d'usage des corps au lit. Le droit va-t-il entériner une inégalité structurelle des corps sexués? Ce qui fait jouir le corps de l'un n'est pas ce qui fait jouir le corps de l'autre. Les jouissances des corps ne sont pas interchangeables. Il y a une inégalité indépassable entre les corps parlants qui tient à la jouissance propre à chacun et que l'inconscient révèle. Cette inégalité se traduit, se transpose dans les discours, dans le discours du maître, dans le discours éducatif, dans le discours religieux, sous la forme d'une ségrégation entre les hommes et les femmes, qui se traduit spatialement à la synagogue ou à la mosquée, et qui se révèle encore au niveau des salaires, dans le marché du travail. Autre chose est la ségrégation structurale, qu'au père, il n'y a pas de rapport sexuel dans l'alcool, car elle ne tient pas à une ligne de séparation passant entre le corps de l'homme et le corps de la femme, comme l'épée que met Tristan au lit entre lui et Iseult. La vraie ligne de séparation est interne à chacun et à chacune. C'est celle qui sépare le sujet de l'autre en l'unissant à l'objet de son fantasme et qui l'empêche de jouir du corps de l'autre. La psychanalyse met à jour cette radicale singularité avec laquelle chacun construit son rapport au sexe à partir de l'énigme qu'il représente pour lui-même. Lacan nous a permis d'élucider la logique qui fonde à raison et non en idéologie cette ségrégation indépassable des jouissances qui fait que chacun, dans l'acte sexuel, n'est en relation qu'avec une partie du corps de l'autre et que de ce fait, il y a une dissymétrie fondamentale des corps sexués et de leurs jouissances. De cette ségrégation des jouissances des corps sexués, la mythomanie ambiante est bien loin de mesurer l'incidence réelle dans le champ clos du désir de chacun. Car ce que méconnaît la revendication du mouvement MeToo, c'est que ce qui contente le sexe dans l'inconscient réel n'est pas de l'ordre du consentement entre partenaires.